poser une question de nature entièrement différente, bon, puisqu'on pense qu'on va bientôt avoir une carte du génome humain. Bon, à mon avis, ça fait partie de la nature, de la même façon que, je ne sais pas moi, un spectre atomique. Alors, dans quelle mesure est-il légitime qu'il y ait une brevetabilité de ces connaissances, une appropriation, alors que c'est quelque chose qui devrait faire partie du patrimoine commun de l'humanité? Je crois que c'est une question éthique et pratique.
Alors, bon, merci de poser cette question, parce que c'est un domaine dans lequel je suis très concerné, dans lequel j'ai développé beaucoup d'activités avec un certain nombre de mes collègues. Donc je vais résumer quelques étapes de cette histoire qui est très actuelle, avec beaucoup de scientifiques, mais aussi de beaucoup de gens du milieu économique, juridique, philosophique, enfin, beaucoup d'autres intervenants de la société. Au début des années 90, nous avons manifesté notre position et notre souhait de voir ces connaissances considérées comme partie du patrimoine commun de l'humanité. Alors ça a impliqué toute une série de démarches, et notamment en 1992 à l'UNESCO, j'ai présenté personnellement au nom de plusieurs centaines de collègues une déclaration qui allait dans ce sens. Alors ça a donné lieu à des combats à la fois visibles et invisibles, difficiles. Vous savez que récemment, les Nations Unies ont adopté un texte sur la proposition de l'UNESCO. Donc on a travaillé pendant plusieurs années à écrire ce texte, qui est un texte sur le génome humain et les droits de la personne. En fait, une sorte d'extension de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui d'ailleurs a comme caractère d'être non seulement une déclaration, mais un instrument avec un suivi d'application dans les législations nationales. Et vous savez que récemment, le président américain et le premier ministre britannique ont même fait une déclaration qui reprend notre satisfaction en grande partie, et même parfois mot à mot, ce que nous avions dit en 92 ou ce qui a été dit à l'UNESCO en 98. Donc là, la proposition, il faut être précis sur les termes, c'est de dire la connaissance des génomes en général, c'est quelque chose qui doit être disponible, inappropriable, accessible à tous. Et donc, la proposition, c'est de l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO au même titre que le Mont-Saint-Michel, où qu'on aurait pu le faire pour le tableau de Mendeleïev ou pour les particules.
Oui, vous comprenez.
Ça, c'est un premier.
Patrimoine commun.
Alors, la difficulté, elle vient du fait que ça, c'est la connaissance, c'est l'information. Ensuite, comme vous l'avez compris, il y a la matière première, le gène en tant qu'objet physique. Et comme vous le savez, depuis trois siècles, s'est développé une pratique sociale qui est la pratique de la propriété intellectuelle et industrielle, et notamment le droit des brevets. Donc, c'est posé la question de savoir
qu'est-ce qui
était brevetable, d'abord dans le vivant en général, et dans la génétique et le gène en particulier. Alors, le fait est que depuis une vingtaine d'années, avec le génie génétique, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de brevets qui ont été demandés et accordés sur des gènes individuels. Alors là, il faut rentrer un peu dans la technique pour bien comprendre que ce droit des brevets, bon, il a plusieurs caractéristiques qu'il faut avoir en mémoire pour comprendre le débat. La première, c'est qu'il a été développé d'abord pour les objets mécaniques. On définissait un dispositif et immédiatement, en fait, on pouvait le fabriquer et le faire fonctionner. Alors ensuite, il a commencé à être adapté par les chimistes. Alors là, les chimistes ont inventé quelque chose dans le domaine du droit de brevet qui est très pernicieux pour le problème qui nous concerne, qui est le problème des séries dérivées. Autrement dit, si on a une molécule et qu'on a obtenu une application industrielle et que ça répond à tous les critères, on peut aussi revendiquer toutes les molécules qui sont un petit peu modifiées et qui ressemblent à cette molécule. Alors vous comprenez que si maintenant on traduit ça en termes du gène, on a le gène dans sa structure, disons, entre guillemets, normale. Et puis là, on peut commencer à revendiquer tous les variants, toutes les modifications, toute la combinatoire. Ce qui, j'espère l'avoir bien démontré, est une absurdité, puisque pour on s'approprie, mettons, un élément, et de ce fait, on s'approprie, à la limite, tous les éléments qui sont en nombre quasiment infini. Alors, spécifiquement, ce que un certain nombre de collègues aux États-Unis, puis en Europe, puis au Japon ont fait, c'est qu'ils ont dit, ben voilà, j'ai attrapé le gène par un petit bout, et donc, je revendique le droit de propriété sur tout le gène, tout le génome, toutes les applications de ce gène pour la thérapeutique, l'agriculture à venir. Autrement dit, j'ai planté mon drapeau sur le génome, et donc, je suis le propriétaire. Alors, il y a eu d'ailleurs un cartoon dans un journal américain où on voit l'un de ces personnes qui arrive devant l'office des brevets et qui revendique un brevet sur ATGC. Et la personne de l'office des brevets ouvre la porte et dit Sorry, God was first. Bon, donc ça c'est pour l'aspect anecdotique. Ceci dit, il faut comprendre que derrière ça, il y a une bataille ou même une guerre économique. Alors, l'Union européenne a pris récemment une directive sur les biotechnologies et la brevetage vivant qui est une sorte de compromis à géométrie variable et qui a dit grosso modo que les magistrats décident finalement, quoi. Et on va traiter ça au cas par cas, quoi. Ceci dit, quand même, le balancier est revenu dans la période récente vers une position, disons, plus équilibrée. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un brevet? C'est un contrat social entre l'inventeur. Pardon? Voilà. C'est un contrat social à durée déterminée et à géométrie variable. C'est-à-dire que le droit local prédomine. La durée est limitée. Et c'est un contrat social. C'est-à-dire que l'inventeur fournit son invention et en échange, il reçoit un droit de refus de laisser les autres exploiter son invention. Bon, donc là, on est arrivé à un stade où les revendications étaient telles qu'en fait, on voulait placer la connaissance fondamentale, primaire, comme si on avait voulu breveter le tableau de Mendeleïev, le tableau des particules élémentaires ou la classification des espèces, alors que c'est vraiment un outil de recherche qui est le terreau sur lequel on peut espérer voir se développer des applications. Et évidemment, inversement, il faut qu'il y ait des outils comme les brevets, notamment pour favoriser que le monde économique s'approprie ces connaissances, les transforme en objets et en inventions utilisables et utiles par la société. Et ensuite, il faut que la société accepte de payer le prix des produits pharmaceutiques, des développements thérapeutiques. Donc ça, c'est vraiment au cœur du problème. Donc moi, j'espère qu'on va dépasser très rapidement ce stade et que les offices des brevets, les gouvernements, les législateurs vont fixer un cadre beaucoup plus clair où, disons, la barre à passer pour passer de la découverte à l'invention va être plus raisonnable, autrement dit plus élevée, plus sélective, et qu'on aura comme ça peut-être un nombre plus limité de brevets, mais des brevets utiles d'application. Alors évidemment, je parlais du problème du délai dans lequel les juristes accompagnent le mouvement. Un grand nombre de sociétés se sont créées sur l'incertitude de la situation et ont fait des déclarations spéculatives en disant on ne sait pas si ça va être accordé. Donc nous déposons des milliers, et donc ils ont même des robots informatiques qui remplissent des demandes de brevets. Ils ont aussi des robots qui viennent regarder ce qui se passe dans les laboratoires pour en tirer de l'information et ils enregistrent par milliers ou par dizaines de milliers des demandes de brevets. en sachant que probablement elles ne seront jamais accordées, puisque en fait, à 99,9%, elles ont été toutes rejetées. Mais ensuite, ils vont voir des investisseurs auxquels ils promettent monts et merveilles, et qui évidemment fournissent des moyens financiers qui se chiffrent en milliards de dollars. Alors, c'est très volatile. Si vous lisez les journaux, rien que ces derniers 15 jours, plusieurs des sociétés de ce domaine ont vu leur valorisation changer de plusieurs de milliards de dollars par jour, en plus et en moins. Donc, ce sont des phénomènes vraiment très conséquents. Alors, évidemment, les enjeux sont tels que les gens comme nous qui tentent de trouver des solutions, disons, relativement équilibrées, nous sommes soumis à des tensions, pour ne pas dire parfois des attaques d'une violence assez étonnante, et notamment relayées par des médias pas toujours bienveillants, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes qui, évidemment, font la publicité du gène de ceci, du gène de cela, et qui acceptent difficilement qu'on leur dise que ça n'est pas aussi simple, qu'on n'est pas encore aussi avancé. Donc, par exemple, vous allez voir dans les prochains jours, il y avait même un article aujourd'hui dans le Figaro, que l'une des sociétés qui venait de perdre 70% de sa valeur boursière a fait une annonce qui en fait n'a aucun sens scientifique, mais qui a fait grimper son cours de bourse de 25%.
C'est là où le problème de science-société devient très très aigu, puisqu'il y a une sorte de triangle qui est en train de se former entre la recherche scientifique de pointe dont on vous a entretenu, ensuite ce qu'en disent les médias qui brouillent l'univers social et ce que les investisseurs financiers produisent à partir de là. Alors, c'est dans ce triangle que se posent toutes les questions sur les nouvelles technologies. Ce qui est vrai, c'est-à-dire la science dit, disons, le vrai à cet égard, avec autant de guillemets que vous voulez. Mais ce vrai-là passe sur les médias, qui est ce qui fait le plus de bruit, vous voyez,
Il rajoute un titre.
comment?
Il rajoute un titre
Il rajoute un titre, et
qu'on ne
ça, c'est
contrôle pas.
l'opinion publique, vous voyez, c'est-à-dire la société, et ensuite ceux qui tirent profit de ce triangle. Vous voyez. Alors, on est en ce moment, la société est mise en prison, si vous voulez, entre le phénomène argent, le phénomène effet d'annonce et le phénomène recherche. Voyez.
Alors,
Et c'est
je
là.
vais vous raconter une petite histoire vraiment tout à fait caractéristique de cette situation. Il y a quelques jours, j'étais à l'université Stanford, visiter mon ami et collègue, le professeur David Cox, qui est un des plus grands généticiens de la médecine actuelle, qui est le conseiller du président américain pour les questions d'éthique. Il m'a dit la chose suivante que je vous répète. Il m'a dit, si on continue comme la situation est aujourd'hui, dans 5 ans ou dans 10 ans, notre communauté scientifique sera désignée du doigt comme étant la génération des grands menteurs. Parce que beaucoup de gens ont annoncé, nous avons découvert le gène de. Et on va s'apercevoir que dans
Que c'est faux.
99% des cas, c'est faux.
C'est faux. Ouais.
Nous avons annoncé que, parce que nous allons avoir la connaissance du génome, d'un seul coup, le problème
La
du
guérir les
vieillissement, des
maladies.
maladies, va être réglé comme
C'est faux.
ça, et
C'est faux.
c'est faux. Je pense qu'il faut être humble. Nous avons franchi des étapes. Il est certain que les moyens dont nous sommes dotés pour comprendre la mécanique génétique, le génome, sont des avancées extraordinaires. Mais ça n'est vraiment que le début du commencement de cette aventure. Et il faudra encore beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Troisièmement, nous serons éventuellement appelés les grands menteurs parce que nous aurons mobilisé l'attention des investisseurs, des médias, à coups de milliards de dollars. Et la montagne va accoucher d'une souris. C'est-à-dire qu'en fait, que veut la société? La société, j'espère, veut que l'on progresse dans la connaissance, mais que cette connaissance devienne une connaissance utilisable. Alors, il faut d'abord la rendre utilisable. Il y avait un éditorial récemment dans la revue Science qui peut-être va faire un peu froid dans le dos à certains de nos collègues, qui disait soigne-toi toi-même, en parlant du domaine du transfert des gènes à visée thérapeutique, en disant voilà un domaine dans lequel on est en train de brûler les étapes. On annonce des choses qu'on ne sait pas faire. On ne sait même pas si on saura les faire et quand. Alors ça, il faut avoir je pense, l'honnêteté, le courage de le dire. Ça a un certain prix qui est parfois qu'on peut être au moins temporairement en difficulté, mais j'espère que la sagesse va l'emporter parce qu'en ce moment, c'est vraiment à 90% tout et n'importe quoi dans ce qui est dit dans les médias à propos de ce qui est fait dans les laboratoires.